C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Eh oui, vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio 91.3. Nous vous souhaitons bien évidemment une bonne et heureuse année, c'est évident, quoi. Bienvenue dans Cinéscent qui fête aujourd'hui un événement important puisque c'est le 7 janvier 2017, oui, que sortait en salle une adaptation de la série télévisée Masha et Mishka. Masha, c'est la petite fille espiègle. Et Mishka, le brave ours. Eh ben, dans le studio, présent à mes côtés, se trouvent nos Masha et nos Mishka à nous. La Masha du Lyonnais, la matrice de Bouchon et de Traboul, teintée d'une nuance de Lorraine, comme Bacal Annelise. Bonjour Annelise.
Bonjour Jean-Jacques.
Comment allez-vous en cette nouvelle année?
Très bien, et vous? Bonne année, meilleurs vœux.
Oui, pareillement. Et le Mishka du Marmandais, spécialiste du calembour au lait cru, genre dimanche, manche. Voilà, Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Jacques, bon cours Annelise.
Bonjour Patrick.
J'aime beaucoup le Lorraine.
Vous n'allez pas faire toute l'émission comme ça.
Si, parce que je suis marmandais aujourd'hui.
D'accord. Alors, à 14h passées de quelques secondes à l'horloge d'eau de radio, il est temps d'ouvrir notre formule du jour, un homme et une femme. Et cet homme, cette femme ont fait par le passé l'actualité du cinéma. De façon plus ou moins directe, on va pouvoir le constater. Alors Patrick, nous allons débuter par la personnalité masculine.
Oui, alors je vais vous parler d'une personnalité. Je vais arrêter de parler avec cet accent à la noix de coco que je ne maîtrise pas bien. Oui. Donc une personnalité qui est en fait une double personnalité, qui est plutôt un concept. Donc voilà.
Très bien, on n'a rien compris, mais on verra
mais moi
si
non
ça
plus.
Change après, d'accord.
Mais d'ailleurs, en parlant de ça, on ne le dira jamais assez, hein, mais Constantin Stanislavski a été, à l'instar de Jacques Copeau, Jean Villard et quelques autres, un des plus grands théoriciens du monde du théâtre. Il est né le 5 janvier 1863 à Moscou et mort dans la même ville le 7 août 1938. C'est un comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique russe, puis soviétique.
Alors, il est créateur avec Vladimir Nemirovitch Danchenko du Théâtre d'Art de Moscou. Son enseignement est fondé sur la mémoire affective et le vécu propre des acteurs. Les dernières décennies du XIXe siècle marquèrent le commencement d'un profond changement qui affecta toutes les formes de l'art russe. À la fin du siècle, l'influence des symbolistes français et celle des philosophes allemands se firent sentir auprès de la jeunesse intellectuelle. Et le jeune comédien et metteur en scène réfléchit sur son art et il va s'intéresser aux expériences du Théâtre Libre d'Antoine à Paris.
Jacques-Antoine. Hein.
Oui, Jacques-Antoine, oui. Voici le portrait de Stanislavski par Georgi Chmara, l'un de ses élèves, suivi d'une courte présentation de sa philosophie du travail théâtral.
Konstantin Sergeevich Stanislavski, je l'ai bien connu. Il était très grand, les cheveux grisonnants, l'œil clair. L'attention était surtout captivée par son visage, aux lèvres épaisses, qui s'entrouvraient dans un sourire presque enfantin.
Stanislavski est un nom associé au monde du théâtre et du cinéma. C'est un nom à la fois familier, car souvent cité par les comédiens ou les acteurs célèbres, et mystérieux par sa sonorité et la méconnaissance de ce qu'il nous a réellement apporté. Avec la rigueur et la ténacité du scientifique, Stanislavski a cherché les moyens d'arracher le masque pour trouver le sentiment vivant. Comment parvenir à être soi-même? Comment exister sur scène? Comment exister tout court?
Alors sa théorie est basée sur 7 points tout aussi importants pour lui que ce devra l'être pour le comédien. On cherche à définir en premier lieu la ligne de pensée probable de chacun des personnages qui participent à la situation dramatique. De la même façon, on établit une ligne d'image la plus complète et détaillée possible et ensuite, enfin, une ligne d'action.
Le comédien et le metteur en scène doivent répondre à cette question. Qui suis-je ?
7, le chiffre.
Oui, 7. Oui, 7 questions, pas celle-ci.
On est d'accord.
On est d'accord. Qui suis-je ? Où suis-je ? C'est quand ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi est-ce que je le veux ? Comment vais-je l'obtenir ? Que dois-je surmonter ?
Surmonter.
Ça fait beaucoup tout ça.
Hein ? Oui, ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup de questions, mais voilà, quand on procède à l'art théâtral, ce sont des questions qu'il faut se poser. Alors, ces ouvrages, je vous les cite, hein, « Ma vie dans l'art »,« La formation de l'acteur et la construction du personnage » sont encore aujourd'hui en vigueur dans la majorité des cours de théâtre. Je dois avouer que pour passionnantes qu'elles soient, ces lectures nous donnent surtout à réfléchir en qualité d'acteur et ou de metteur en scène sur la justification de l'art théâtral.
Alors, la mémoire émotionnelle initiée par ce bon camarade Constantin, on la retrouve dans la chanson « J'attendrai », enregistrée en 1938 par Rina Ketty.
Ah, Rina Ketty,
mai 1928, Ixelles, en Belgique. Il faisait sûrement beau à cette période, le ciel devait être bleu et l'horizon clair. Christiane Pasquet n'a pas trop le temps de voir la météo. En effet, elle va à l'hôpital pour mettre au monde l'une des futures représentantes de la nouvelle vague entre photographie, cinéma et art plastique, Agnès Varda.
Née d'un papa grec et d'une maman belge, Agnès Varda demeure l'une des grandes réalisatrices de la nouvelle vague de Cléo de 5 à 7 à Visage Village en collaboration avec l'artiste JR. Il faudrait une année entière pour parler de cette artiste, femme engagée autant dans le cinéma que dans ses convictions féministes. Agnès fut l'une des rares femmes à figurer sur la carte du jeune cinéma des années 60.
Elle fut remarquée dès son premier long-métrage, La Pointe Courte, en 55. 7 ans plus tard, elle montait les marches du Palais des Festivals à Cannes pour présenter son deuxième long-métrage, Cléo, de 5 à 7. Elle a été tour à tour photographe, réalisatrice et artiste dans les arts plastiques. Photographe est son premier métier d'abord avec Jean Villard et le Festival d'Avignon en 48, puis elle enchaîne avec le Théâtre National Populaire. Elle réalise sa première exposition personnelle en 54 dans la cour de sa maison, puis de nombreux reportages photographiques, notamment en Chine, à Cuba, au Portugal, en Allemagne. Et au gré de ses voyages ou de ses rencontres, elle réalise des portraits d'anonymes ou de personnalités. Elle disait avoir gardé ce goût pour un art exigeant et accessible, atteindre le plus grand nombre en mettant la barre très haut.
Intarissable, en proie au doute, telle était la cinéaste Agnès Varda. Avec son compagnon Jacques Demy et sa société de production et de distribution Sidney Tamaris, installée dans le 14e arrondissement à Paris, rue Daguerre plus précisément, l'amour et le cinéma s'entremêlèrent au point de former la trame de quelques œuvres marquantes. Agnès Varda réalisa près de 36 films.
Et en 65, Agnès Varda donc, vient d'obtenir le prix Louis de Luc pour son film Le Bonheur. Et c'est depuis leur maison de Noirmoutier que le cinéaste et son mari réagissent à cette annonce. Suit la chanson du film Cléo de 5 à 7, interprétée par Corinne Marchand.
C'est à Noirmoutier que Jacques Demy et Agnès Varda cherchent, je pense, la paix pour travailler et le bonheur et le calme. Agnès, comment avez-vous appris que vous aviez le Deluc ?
Par téléphone. Notre productrice, Mac Bodard, nous a téléphoné hier soir à 10h30. Ce qui me semble rigolo, et on s'en est tout de suite fait la réflexion, c'est que je pense que c'est le climat. Parce que vous savez, il y a des climats qui donnent du rhumatisme ou des boutons. Et j'ai l'impression qu'ici, on attrape le Deluc. Parce que les trois seuls cinéastes qui viennent dans l'île, qui sont Robert Bresson, Jacques et moi, on a attrapé ça en moins de deux. Et on a même fait le calcul que sur 3000 habitants de l'île, comme on était trois Deluc, ça faisait du 1 pour 1000 à avoir le Deluc, ce qui est quand même un taux extrêmement dense.
Quels sont vos projets ?
Tourner encore.
Quoi ?
Un film qui s'appelle Les Créatures et qui sera tourné ici, à Noirmoutier même. Oui, parce que tant qu'à faire, si on peut y être encore plus en tournant ici, ça ferait d'une pierre deux coups.
Qu'est-ce que c'est que les créatures ?
C'est une histoire de science-fiction. Et je ne peux pas vous raconter, mais c'est un peu un film un peu noir, un petit peu... pas difficile, mais d'une histoire un peu bizarre, comme ça.
Toutes portes ouvertes
Israel Strasberg, dit Lee Strasberg, est un comédien américain d'origine austro-polonaise, née en 1901 à Boudanif, en Galicie, aujourd'hui ukrainienne, et mort en 1982 à New York. Il a contribué avec Elia Kazan à faire de l'Actors Studio l'une des écoles d'art dramatique parmi les plus réputées au monde.
Alors Strasberg pense que l'acteur doit créer son personnage par sa mémoire affective et ses ressources émotives. Alors en quoi consiste la méthode de l'Actors Studio ? Alors si elle devait être résumée, elle reviendrait à dire aux comédiens de ne pas jouer, mais plutôt de vivre, de ressentir, de laisser s'exprimer leur intériorité. Les acteurs formés à l'Actor Studio apprennent à puiser en eux-mêmes pour interpréter un personnage. Comme quoi, nous ne sommes pas très très loin de la personnalité évoquée plus haut.
Ah, voilà, je cherchais
le lien, il est
oui,
là.
C'est
avec
votre deuxième personnage.
C'est pour ça que je parlais de concept tout à l'heure, en préambule.
D'accord, très bien.
Bah, il a donc, lui, Strasberg, a développé la pratique, mais surtout, il l'a adapté au cinéma. Alors, on sait, au théâtre, on projette, on est d'accord,
oui.
Jean-Jacques.
Toujours, toujours.
Et au cinéma, on retient, parce que oui. C'est la caméra qui vient capter l'émotion par son œil infaillible. Et cette dimension permet au comédien d'intérioriser son émotion, d'aller chercher au plus profond de lui-même la justification de sa présence.
Comme qui, par exemple.
Voilà. Alors, un des grands acteurs, oui. Une sorte de messie, non pas Lionel, c'était Marlon Brando. Qui a été un des plus grands, avec James Dean quand même, a été un des
empêcher,
plus grands représentants de cette grande école.
Oui.
Puis vinrent Robert De Niro, Paul Newman, Meryl Streep, et encore Nicole Kidman.
Et vous savez, en 67, Strasberg, il vient donner des cours en France.
Oui.
Et tiens, je vous propose d'écouter les avis émis par quelques actrices et acteurs français. Vous reconnaîtrez ou pas Delphine Seyrig, Samy Frey, Catherine Deneuve et Jean-Claude Brialy. Qui se montre pour ou contre les pratiques de Strasberg.
Je vois déjà ceux qui sont contre.
C'est quelqu'un qui nous apporte une méthode de travail qui est basée sur les conclusions qu'on a pu tirer des récits et de ce qu'on a vu de grands acteurs depuis l'origine du théâtre. Et de cela, on a pu tirer certaines conclusions. Monsieur Strasberg n'a rien inventé. Il a simplement fait ce que son prédécesseur Stanislavski avait déjà fait. Il concentre un certain nombre d'expériences vécues et lues pour aider les comédiens quand ils ont des problèmes.
En voyant les cours de Strasberg à Paris, j'ai eu l'impression d'un homme qui n'était pas un charlatan, comme certains ont bien voulu le dire, avec une certaine dose de bons mots et de parisianisme qui était assez exaspérante, mais simplement un homme qui s'était occupé des acteurs pendant presque toute sa vie et qui nous livrait ses réflexions. Moi, personnellement, j'en ai fait mon profit. Maintenant, je n'ai pas à juger si pour les autres c'est bon ou pas bon, s'ils se sont laissés faire ou pas faire. Moi, je me suis laissé faire.
Je suis tout à fait pour. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses et qu'il y a beaucoup d'acteurs français qui sont... contre et qui l'ont pris un peu de haut même, je crois. Une espèce d'inquiétude qui se manifeste avec dédain. Je sais à peu près ce que c'est, je sais comment ça se passe, je sais sur quelle méthode c'est basé, et que je trouve que pour le cinéma, surtout, enfin, c'est tout à fait valable.
Moi, je suis contre les cours, de toute façon. Je crois que les gens qui ont du talent peuvent apprendre à marcher, à bouger, à respirer, à articuler, enfin, des problèmes techniques. Mais je ne crois pas qu'on puisse donner du talent à quelqu'un qui n'en a pas. Cela dit, je pense que M. Strasberg n'est pas un imbécile. C'est un homme qui aime beaucoup le théâtre et qui connaît quelque chose. Mais je ne pense pas que Annie Girardot, Simone Signoret, Jeanne Moreau aient besoin d'aller chez Strasberg pour s'exprimer.
Ce sont des avis tranchés.
Ce sont des avis très, très tranchés.
Très tranchés.
Oui, absolument.
Chacun choisira sa paroisse.
Oui. Oui, Anne-Lise.
Alors,
oui.
Moi, ce que je voulais... Bon, allez, si Strasberg est connu aujourd'hui, il n'a pas laissé un souvenir impérissable en tant que comédien.
Non, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Il est principalement connu pour son rôle d'Iman Ross dans Le Parrain 2.
Ah oui.
Oui, c'est vrai. Oui, ouais, il tenait un petit rôle d'avocat.
Un petit rôle,
enfin,
quoi.
Voilà, il voulait ouais, faire...
Pas, c'était pas son fond
non,
de commerce,
non,
quand même.
Non, c'était pas assez. Il était plutôt directeur d'acteur que comédien lui-même. Mais alors, entre théâtre et cinéma, on le sait, la frontière est poreuse. Nombreux sont les comédiens qui brillent sur les planches après avoir une carrière longue et riche au cinéma. Ne serait-ce tiens que notre bébel national, notre Jean-Paul Belmondo.
Il a suivi l'Acteur Studio ?
Non, mais il était premier prix de conservatoire. Oui, je venais faire le lien entre le
premier
théâtre et
prix,
le cinéma.
Il a été premier,
premier prix de conservatoire
viré,
de Paris.
Ah, il me semblait qu'il avait été viré. Du
non, non, il était premier prix de conservatoire, monsieur.
Alors en 1961...
Oui, vous m'avez réveillé, vous m'avez fait très peur.
En 1961, l'ex-mannequin allemande Christa Pafgen, alias Nico.
Nico, oui.
Ben, elle prend des cours avec Lee Strasberg. Et vous savez qu'elle était dans la même classe que Marilyn Monroe. Et en 67, 6 ans plus tard, elle est chanteuse dans le premier album du Velvet Underground, le fameux album à la banane, dont voici l'extrait « Sunday Morning ».
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
De 5 à 7, l'action se déroule en temps réel.
Ah, on revient avec
Agnès Varda.
Ah oui, d'accord.
Oui, on passe de l'un à l'autre. Alors, il faut suivre un petit peu.
C'est le principe
peu.
D'ailleurs de l'émission, hein, qu'on passe d'un homme à une femme.
Donc vous disiez
tout à fait. Donc, je parlais d'Agnès Varda et son film Chloé, Cléo, de 5 à 7.
Elle en a fait deux, l'autre est beaucoup moins connue. Oui, allez-y, pardon.
Non, mais allez-y, si je vous embête, dites-le moi surtout. Hein.
Non. On est en train de compter les points.
Je vois ça. Bref, l'action se déroule en temps réel le 21 juin 1961 à Paris. Mm-hmm. Cléo, une jeune et belle chanteuse plutôt frivole, craint d'être atteinte d'un cancer. Il est 17h et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans 2 heures. Pour tromper sa peur, elle cherche un soutien dans son entourage. Et elle va se heurter à l'incrédulité, voire à l'indifférence, et mesurer la vacuité de son existence. Et elle va finalement trouver le réconfort auprès d'un inconnu, à l'issue de son errance angoissée dans Paris. On retrouve dans le film Corinne Marchand dans le rôle de Cléo.
Donc la jeune femme qui chantait la chanson tout à l'heure.
Tout à fait.
On est bien d'accord. Hein. Oui. Et alors figurez-vous qu'en 1991, Agnès Varda réalise Jaco de Nantes, en hommage à son mari Jacques Demy, qui était mort l'année précédente. Le film retrace l'enfance nantaise, puis l'adolescence du réalisateur. Le petit Jacques, dit Jaco, rêve très vite de cinéma et de mise en scène. Il achète une minuscule caméra afin de tourner ses premières œuvres. Et il finit par partir pour Paris pour suivre les cours d'une école de cinéma.
Et oui, alors l'ensemble de l'œuvre cinématographique d'Agnès a été plusieurs fois récompensé.
Oh oui.
César d'honneur en 2001, prix René Clair de l'Académie française en 2002, Palme d'honneur au Festival de Cannes en 2015 et Oscar d'honneur reçu en 2017. Elle est toujours en 2017 pour l'émission de TMC Quotidien. La réalisatrice revenait sur ses films et son amour du cinéma.
Les pages d'Agnès, c'est le plus facile parce que je raconte tous mes films, les gens que j'ai rencontrés. C'est un petit peu un autoportrait, donc par ce film-là, on peut avoir envie de voir les autres. Et puis les glaneurs et la glaneuse, parce que les jeunes sont plus conscients encore que les autres du gâchis de nourriture, la nourriture qu'il faut recycler. Il y a des gens qui sont si pauvres, qui mangent ce que nous jetons. Alors ça, les jeunes le comprennent mieux que les autres. Et beaucoup de jeunes qui ont vu les glaneurs se sont demandé qui c'était cette femme-là et ont commencé à voir mes films.
Comment définir votre cinéma? Les films d'Agnès Varda sont des films, trois petits points de suspension.
Alors, libre. Parce qu'on parle des gens, on parle des idées. J'ai fait des fictions qui étaient un peu particulières. Une, par exemple, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Antoine Ilois. Sandrine Bonnet est une vagabonde folle furieuse contre la société qui marche sur la route. Et puis, j'ai fait des documentaires parce que j'aime beaucoup les gens. Disons que je suis curieuse, proche des gens, que je mets en valeur des gens qui n'ont pas de pouvoir, que j'essaye de penser que...
Qui n'ont pas la parole.
Et que, donc, il faut la leur donner. Et que... de faire une sorte de sympathie qui circule, l'empathie qui circule, de faire que les gens se rencontrent, s'aiment. C'est pas cucu, ça. C'est important.
Ah ben non, c'est pas cucu
non,
du
pas
tout,
du
ça.
Tout même, hein.
C'est le moins qu'on puisse dire. Artiste plasticienne à 70 ans, ses installations sont exposées lors des biennales de Venise et de Lyon, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, à la Galerie Martine Aboukaya de Paris, au CRAC de Sète. Et dans un entretien au journal Le Monde, elle expliquait sa démarche.
En 1954, j'étais photographe au TNP et je connaissais peu le cinéma. Il me semblait alors que beaucoup de révolutions littéraires n'avaient pas leur équivalent à l'écran. Aussi me suis-je inspirée, pour mes recherches de Faulkner, de Brecht, essayant de briser la construction du récit, de trouver un ton à la fois objectif et subjectif, de laisser au spectateur sa liberté de jugement et de participation.
Alors on en parlait tout à l'heure dans son film « Saint-Antoine-Ilois » de 1985.
Oui, ah ouais.
Voici « In My Tea » par les Rita Mitsuko.
Ah bah ça va bouger un peu.
I watch it in my kitchen, little mommy got in my tea. More than rips and picks from the factory of lipsticks in my tea. And this gray is too much, telling off my dapper bush. The weather, I'm a king, a feather in my tea. Any place for my hair? Yes, only in the air. There's not so much place. I got a strange face. There's nothing wrong or right. It's a question of life. I dream them.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Eh bien, sur 91.3 allô, de radio, allô, Anise, bien
est-ce que vous
entendu.
Êtes arrivé?
Oui, bien sûr, pardon, j'étais, oui, tout à fait, j'étais pas sur la bonne ligne.
Et alors, au de radio, où il est maintenant venu l'heure d'ouvrir notre séquence ciné, télé et canapé.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Ouais, bon, on
c'est
va pas dingue. Vous la refaire parce qu'on le dit à chaque semaine. Donc, vous reconnaissez le jingle, ciné, télé, canapé. Jingle. On va regarder des films à la télé dans notre canapé.
Wow.
Et alors, cette semaine, on a quoi?
Ce soir.
Oui, par exemple, ce soir.
Ce soir, TF1.
Oui, allez-y.
21h10.
À quelle heure?
À 21h10.
D'accord,
oui.
Toujours à 21h10.
Oui. De Luc Besson, peut-être?
De Luc Besson, oui, bah, avec Bruce Willis, Mila Jovovitch.
Voilà.
Hein, le cinquième élément. Oh, Bambi. Oui. Le cinquième élément, bien sûr.
Oui, je l'avais aussi, j'avais que celui-là,
voilà,
d'ailleurs.
Mais moi aussi, hein.
Bon,
hein,
moi, j'en ai un autre.
Ah, alors, bon, bah, bien sûr.
Sur TCM Cinéma à 20h50.
Ah bah
tiens.
L'Impasse, de Brian De Palma, un film de 93, voilà. C'est avec Al Pacino qui joue un gangster qui veut se ranger des voitures, mais c'est pas si facile que ça.
Bah non.
Et puis, il a un avocat qui pratique la cocaïne de façon intense et qui s'appelle Sean Penn. Voilà. Sean Penn, Al Pacino, L'Impasse, Brian De Palma. C'est pas mal tout ça.
Pas mal.
Bon,
pas
alors
mal.
On passe à demain.
Demain, mercredi, oui.
Parce que c'est le lendemain de.
Alors, moi, j'en ai un aussi, si vous voulez que je vous donne un film que j'ai.
Ouais.
Alors,
moi, j'en ai pas.
Moi, j'en ai un.
Oui, j'en ai un aussi.
Alors, ça s'appelle La Fracture. C'est sur Arte à 21h. Un film de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marie Lafosse et Pio Marmaille. Donc voilà, c'est pendant le mouvement des Gilets jaunes. Julie, dont le fils rejoint les manifestants, annonce à sa compagne Raphaël qu'elle la quitte. Anéantie par cette rupture, Raph, après une chute dans la rue, se retrouve dans un service d'urgence submergé par l'afflux des blessés. Voilà, ouais, c'est un chaos
très,
entre les personnels soignants.
C'est
les
très gay, quoi.
Un peu comme les musiques d'aujourd'hui.
Bon, je vous propose,
le cinéma n'est pas très gay, je suis désolé.
Si, regardez, vous allez sur Ciné Plus Classique ce soir,
oui.
Demain soir.
Hein, il faut l'avoir.
À 20h50. Mais vous avez le temps de vous abonner, vous avez toute la journée.
Tout à fait.
Et vous allez retrouver le miraculé de Jean-Pierre Mocky.
Ah oui, d'accord, avec Serrault et
alors avec Poiré qui joue un faux handicapé qui va à Lourdes pour récupérer l'assurance, machin. Jeanne Moreau qui l'aide, qui est au courant de rien, mais qui l'aide et qui est une ancienne prostituée. Mmh. Et un assureur muet qui a senti l'embrouille et qui s'appelle, dans le film, Ronald Foxterrier. J'invente rien, et qui est joué par Michel Serrault. Tout ça, c'est sur Ciné Plus Classique.
Et c'est jubilatoire, effectivement. Le cinéma de Mocky est jubilatoire.
Ah, oui, toujours ironique et vindicatif. Et...
D'accord. Jeudi.
Jeudi. Alors, moi, j'en ai un.
Rien.
Sur W9.
Je chantais, moi, je n'ai pas sur W9.
À 21h10, toujours. 21h10.
Sur
W9.
D'accord.
21h10. Ridley Scott, avec un film de Ridley Scott. Avec
Il joue dans ce film.
Non,
je pensais que c'était le titre.
Un film de Ridley Scott avec Matt Damon qui s'appelle Seul sur Mars.
Ah oui, d'accord.
C'est une personne qui se retrouve en fait bloquée sur Mars suite à un astronaute et qui va essayer de survivre en attendant les secours. Alors. Sur Mars.
Ouais. Il avait amené des mots croisés ou
d'accord.
Oh bah il essaye surtout de trouver à manger.
Sur Mars.
Oui.
Aïe.
Voilà. En fait, c'est comment survivre dans un univers hostile.
Non, mais vous, à qui vous dites
hein?
Eh ben oui.
Ça, c'est jeudi, ça.
Alors ça, moi, jeudi, j'ai sur TFX, moi, à 21h05.
À quelle heure?
Allez, à 21h05. Et c'est sur TFX. Et si je vous dis... Andy Wachowski et Larry Wachowski, 99, ça vous dit quoi?
Matrix.
Bien, Annelise, bien. Avec Kenny Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Anne Moss.
Très bien, on
donc
passe
vous
à...
Tous
après c'est classique. Ça devient un classique.
Ça devient un
on
classique.
Passe à vendredi.
Vendredi, oui,
j'ai
moi aussi.
Rien France de 5. Rien.
Oui, tout à fait.
On a le même.
Harrison Ford.
Oui.
Kelly McGillis.
Joseph Sommer.
Witness.
Tout à fait, bravo.
Oui, j'ai reconnu de suite.
Oui, vous l'avez lu surtout.
Non, pas du tout, et lui où? Je lui en ai parlé tout à l'heure.
Bravo.
C'est un film de Peter Weir de 1985.
Tout à fait, sur un policier qui se retrouve chez les Amish suite à une course-poursuite. Et il essaye de trouver les témoins.
Oui.
Voilà,
et se rend compte qu'il tombe amoureux de Rachel,
bien
d'ailleurs,
sûr,
la femme Amish.
Tout à fait.
Ça, c'est quand, ça?
C'est
vendredi à 21h05.
On passe à samedi.
Oui. Bon, mais j'en ai un.
Eh ben moi j'en ai un, mais c'est un documentaire.
Ah, ah bah moi j'en ai un, mais c'est un film.
Moi aussi j'en ai un, mais c'est un film.
Alors allez-y Jean-Jacques.
Allez-y Jean-Jacques.
Alors c'est un documentaire.
Oui, c'est oui. D'accord.
Oh, ça ah, je l'ai dit déjà. Donc c'est à 14h35 sur France 5.
Ah oui, mais c'est l'après-midi. Mais ça,
c'est
ça
samedi.
Va pas du tout.
Samedi, vous avez rien à faire le samedi
après-midi.
Bah si,
plein de ah, choses. Bon, bref. Vous allez à Carrefour, allez-y, continue.
Ça dure passage, nous.
Bon, alors c'est un documentaire sur la cité d'Herculanum, qui est moins célèbre et plus petite que celle de Pompéi, qui est juste à côté, mais qui d'accord. est beaucoup mieux conservée.
D'accord.
Et alors, voilà, c'est un documentaire où on a retrouvé des tonnes, des milliers de manuscrits dans une bibliothèque qui, évidemment, a été complètement massacrée pendant la catastrophe. Et on n'a toujours pas pu les déchiffrer.
Mais il y a plein de
parce qu'on n'arrive pas à
les lire.
À les lire, voilà. Donc il y a des mystères là-dedans et c'est passionnant. Quoi.
Ben, c'est passionnant. Comment on peut savoir que c'est passionnant si on n'a pas les mystères
c'est... C'est à vous la parole. Donc samedi.
Oui.
Merci. Alors samedi, moi j'ai un film.
Oui.
À 21h10.
Ah, sur quelle chaîne?
Sur Sister.
Ah, on a le même.
On a le même.
Ben oui.
Tim Burton.
Tim Burton, Johnny
1990.
Depp. 1990. Eh ben oui, Ridley. Winona Ryder.
Winona Ryder, bien sûr. Édouard Romain d'Argent.
Ah oui.
Très beau film, classique.
Oui, merci. Ça, c'est très radiophonique.
Oui, mais je fais devant le micro. Donc, je fais comme si mes doigts étaient
voilà, c'est un jeu, c'est un jeune homme
oui,
qui
on
a...
Connaît, on connaît.
Oh, bon, bah, alors, bah, d'accord. Merci. Bravo, merci. Bravo, et ceux qui ne connaissent pas, on va demander à Lily qui est avec nous. Est-ce qu'elle connaît
Lily,
Edouard
est-ce que
d'Argent?
Tu connais Édouard Romain d'Argent?
Bon, elle connaît.
Elle connaît, oui.
Allez, on passe à dimanche.
Dimanche.
Dimanche. Moi, j'ai... Alors, ça, c'est bon, Patrick. Calmez-vous.
Moi, j'en ai un.
Moi aussi.
Moi aussi.
Alors, allez-y.
Qui, Patrick?
Patrick.
Moi, je veux y aller,
allez.
Moi, je peux
aller.
Y aller.
À quelle heure?
Sur Arte, 21h.
Bah oui, 21h10.
C'est le même?
Bah oui.
Très bien, vous avez toujours
Paul
les mêmes.
Paul Verhoeven?
Vous vivez ensemble ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Michael Douglas, Sharon Stone?
Bah oui.
Hein?
Basic Instinct?
Oui.
Ah oui, non, mais c'est avec une, comment dire, une Sharon Stone qui est sulfureuse
oui,
à souhait.
Nous en avons parlé de ce film.
Sans
oui.
doute,
la
sans doute
dernière,
possiblement. Mais oui. ça reste un chouette film, une chouette investigation.
Très bien.
Ouais. Merci beaucoup.
Très grand polar.
Eh bien, moi, je ouais. reste en France, monsieur.
Ah,
oui,
c'est français,
à 21h10 sur France 2, un film français de d'Alan Moduit. Alors ça, déjà, ça...
Alors là, vous...
Oui. Okay. Mais si je vous dis Cécile de France, Yolande Moreau, l'excellente Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian, ça s'appelle Rebelle. Et c'est l'histoire d'une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais qui est embauchée dans, dans une conserverie. Elle est agressée par son patron qui lui fait des avances. Et ce patron qui est blessé violemment dans au niveau de son membre viril, oui, ça c'est évident, c'est pas l'idéal, et il finit par mourir. Et les autres ouvrières sont tentées d'appeler au secours, puis elles découvrent une liasse de billets, enfin beaucoup d'argent dans le casier du défunt, donc elles décident de ne pas de rien dire, quoi. Et c'est là que les ennuis commencent.
Et qui se l'est coupé tout seul en faisant du
si sport. Vous voulez le savoir, vous regardez le film.
Bah, je ne peux pas, je regarderai
Basic
Instinct.
Ah
oui,
bah, c'est vrai. Bon, mais
ou là, vraiment,
chacun son instinct.
Chacun son truc, hein,
bon,
avec le pic à glace.
Très bien. Et vous savez quoi? Il est 14h37.
Et lundi, on
ah,
on
oui,
fait rien
lundi.
Pardon,
lundi. Excusez-moi, lundi.
Bah, lundi, il y avait un film.
Moi non plus.
Moi, j'en ai un, moi.
Ah bon,
ah, bon,
je travaille, moi. Qu'est-ce que vous
Soyez
croyez?
Soyez pas timide.
Mais dépêchez-vous, Patrick.
France 3, 21h05. Les jeunes amants de Catherine Tardieu. Avec Fanny Ardant, Melvin Poupeau et Cécile de France.
Non, à quelle heure et où?
À 21h05 sur France 3.
Et ça s'appelle?
Les jeunes amants.
D'accord.
La Shona, 70 ans, libre et indépendante, vit et vit ses vies amoureuses de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans, qu'elle avait tout juste croisé des années plus tôt.
Et ça donne envie de voir le
film. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle une femme d'un certain âge, mais une femme désirable qui n'a pas peur d'aimer. À ceci près que Pierre est marié et père de famille.
Oh ben alors,
bon, alors merci Patrick.
Je vous en prie.
Très bien
fait...
d'avoir fini par ce film.
Ça fait très très
donc,
plaisir.
Je vous disais qu'il était 14h38 minutes ouais, à l'horloge
oui.
de radio. Et ben c'est venu maintenant le temps d'ouvrir notre séquence invité spécial qu'on va accueillir. Tac 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 boum boum. Ah bon, c'est tout. C'est court. Bon, et cet invité spécial, c'est toujours la même personne depuis le début de cette saison. C'est Mélodie. Bonjour Mélodie.
Et bonjour Jean-Jacques, et bonjour Anise, et bonjour,
bonjour Mélodie.
Et bonjour Mélodie.
Bonne année.
Et bonjour Mélodie.
Voilà. Alors vous êtes venue aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi, de qui, comment et pourquoi?
Eh bien, je vais vous parler d'un acteur franco-canadien,
ah.
un doubleur plus que connu en France, monsieur Richard Darbois.
Ah, très bien.
Est-ce que ce nom vous dit quelque chose?
C'est le frère de Guy Darbois.
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il ne travaille pas à SVP. Quoi. Guy Darbois.
Alors, je ne pourrais pas citer la quantité infinie de voix qu'il a interprétées, mais il a pu entre autres doubler Harrison Ford, George Clooney ou encore Patrick Swayze.
Mais
pas
oui.
Patrick Swaller.
Ah pardon, alors, je croyais qu'il m'avait doublé moi.
Personne ne peut vous doubler.
Mais avec l'accent canadien.
Il n'a pas toujours l'accent canadien.
Parce que, oui, d'accord.
Ouais.
Mais je me doute.
pour les fans de c'est Disney... des versions françaises canadiennes, c'est tout.
Oui.
Vous voyez la porte qui est là-bas, vous la prenez, vous fermez derrière vous, s'il vous plaît.
Bon, Mélodie, on vous écoute.
Donc ouais, pour les fans de Disney, il est Buzz l'éclair dans Toy Story ou encore le génie dans Aladdin. Et pour les spectateurs de La Petite Lucarne, comme le dit Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons, c'est aussi la voix off de l'émission Danser avec les stars sur TF1 depuis 2011.
Ah oui.
Oh, entre autres choses télévisuelles, évidemment. Il est tellement important dans le domaine du doublage qu'après son emménagement en Guadeloupe, une radio pour laquelle il enregistre des annonces lui installe un studio sur place.
Carrément. Ah oui, carrément.
Ah oui, quand même.
Avec le petit ponche qui va avec.
Exactement.
Ouais.
C'était ma discussion du réveillon du Nouvel An avec un ami de longue date qui me parlait de Richard Darbois comme étant sa référence et son modèle.
Comment il s'appelle cet ami ?
Et il s'appelle Alexandre Garcia. Et justement, Alexandre j'en profite Garcia. Pour faire un petit placement, voilà. Pas de produit, mais un placement personnel d'amitié.
Très bien, il nous écoute ?
Alors, je pense qu'il nous écoute. Bonjour, j'ai Alexandre. Fait un petit messagère, donc c'est possible. On lui fait un petit coucou.
Très bien.
Coucou,
oui, on ne va pas durer longtemps.
Non, pas d'accord, pas
Nicolas Cantigno le connaît aussi, d'ailleurs.
Très bien. Ah, voilà. Bah, d'accord.
Et donc, ouais, il a un très bel avenir dans le doublage. Donc, avis aux chercheurs de voix, n'hésitez pas à le contacter. Bref, il y a aussi le fait que quand on pense cinéma, on ne pense pas immédiatement doublage. Et pourtant, c'est une pièce essentielle du cinéma. D'une part, parce que tout le monde n'est pas bilingue ou ne peut pas suivre un film ou une série en version originale sous-titrée. Bah, c'est le cas, par exemple, de ma meilleure amie qui nous tanne pour regarder des films en VF. Désolé Gaëlle pour Squid Games et Sherlock.
Yaïaïaï, en VF.
Oupsie. Mais d'autre part, c'est aussi un moyen de donner une autre dimension du produit audiovisuel et de faire rêver. C'est toute une industrie. Lisa, que Patrick et moi, on connaît de la kinosession.
Tout à fait.
Fait partie des personnes qui adaptent ces textes pour les bandes rythmo des acteurs. Et c'est aussi un métier de l'ombre qui mérite d'être mis en lumière, tout comme l'acte de doublage. Mmh. Voilà. Du coup, si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers des doublages via intelligence artificielle. Ouais. Et même sans ça, on voit beaucoup de people, comme les appelle Richard Darbois, qui s'engagent sur des voix et deviennent la vitrine de la vente du film, malheureusement. Le doublage est en danger et je pense qu'il est important de ne pas faire disparaître le rêve et le travail vocal qui force l'admiration et le respect. D'ailleurs, des pétitions sont en ligne si vous voulez participer à votre échelle, mais voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur et nos régions ont du talent, Richard Darbois aussi. Alors mettons en lumière ce savoir-faire merveilleux.
Bravo,
bon, bravo. Merci, je suis d'accord. Parce qu'un doublage mal fait, c'est quand même assez catastrophique. Et c'est vrai que quand c'est bien fait, ça permet de ne pas gâcher l'ambiance du film.
On est d'accord.
Et c'est extrêmement important.
Puis la machine ne peut pas remplacer l'homme. Il faut
certainement pas.
Vous savez, ça me fait penser dans les années 70, les boîtes à rythme qui sont arrivées ont supprimé beaucoup de travail aux musiciens. Direct. C'était bien dommage. Merci Mélodie pour cette séquence. Alors, notre formule, un homme et une femme, elle contient un quiz qui est précédé de son jingle.
C'est qui ça? Ça, c'est quoi ça?
Bon, alors c'est quoi ça? On va essayer de trouver. Je vais vous proposer, tiens, des voix d'acteurs et d'actrices célèbres, comme on l'avait fait il y a quelque temps de ça.
Oui.
À vous de m'en donner les noms. Et alors, ça marchera par duo, puisque c'est le thème de la formule. À chaque fois, une voix féminine est précédée par une voix masculine. Alors, vous êtes prêts?
Allons-y.
Bon, alors, c'est
je suis prêt, moi, oui.
C'est parti
bon,
pour le premier duo.
Stultorum infinitus est numerus. Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon.
Ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou.
Signoret Gabin, le chat.
Miaou, miaou.
Alors, vous avez dit Patrick
Signoret.
Signoret, enfin Gabin, Gabin et Signoret.
Oui, je préfère. Gabin, et dans quel film?
Le
chat dans le deuxième.
Non, Jean Gabin, le tonnerre de Dieu de Nenny Lapatelière en 65 et évidemment Signoret dans le chat de Pierre Granier de Fer. En 71.
Dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps, oui, avec une extrême émotion.
Facile comme première voix, non?
Ça va.
Trop fastoche.
Ça va.
Alors, deuxième voix
numéro 2.
Deuxième
voix. Allez,
allez. C'est qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
Oh, j'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va, ça va toujours. Mais Kevin, oh, écoute. Oh, je n'en peux plus, il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi?
Charles Denner,
pas du tout.
Catherine Frotte.
Catherine Frotte pour la deuxième,
Dans Un air de famille de Cédric Appliche en 96. Et le premier.
Le premier, c'est pas Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes.
Pas du tout. Là, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah ben oui, évidemment. Jean Rochefort dans Un éléphant qui trempe énormément.
Ah ben oui, évidemment.
Bien sûr. Jean Rochefort.
Vous n'êtes pas terrible, mais alors on va essayer
merci,
la troisième voie.
C'est
allez,
toujours un plaisir.
Vous m'avez traité d'abruti? Je pratique les arts martiaux. Judo, aïkido, karaté.
Pierre Richard.
La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben, tire-toi alors.
Oh, je suis nulle, je me déteste. J'intéresse pas les autres. Dis donc, machin, tu vois, c'est bien que tu veux que je bouge. Si t'es énervé, il y a des putes. Vislard.
Isabelle Huppert.
Non,
elle a pas cette gouaille. Isabelle
mais non.
L'homme d'abord, s'il vous plaît.
Alors l'homme d'abord, c'est Pierre Richard.
C'est tout à fait Pierre Richard dans La Chèvre, dans La Chèvre, Francis Weber en 81.
Et l'autre, c'est pas dans Le Père Noël est une ordure ou dans c'est une.
Elle
des...
joue dans Le Père Noël est une ordure.
Alors, c'est Marianne Chazelle.
Pas du tout.
Alors c'est pas Marianne
Mélodie,
Chazelle.
Mélodie, je vous entends pas.
Ouais, mais là
Comment elle s'appelle?
Au revoir.
C'est Lavanant.
Donc elle a un nom de fleur.
Anémone.
Ah, oui, voilà, merci. Voilà.
Je me suis rattrapée.
Ouais, c'était dans Ma ça, femme s'appelle Anémone. Revient de Patrice Lecomte en 82.
Oui. Ah, d'accord.
Voix numéro 4.
Quand vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime. Rien. Autant ça, ça fait un bail que je l'ai dépensé. Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout. Hein.
Non, on se voit surtout chez moi, on se promène à l'extérieur. Mais je pensais que tu voudrais qu'on se revoie quand même. Tu m'étonnes, là, dans ta réaction. Je pensais pas que ça te conviendrait.
José Garcia.
Alors, eh bien, c'était José Garcia. Oh. Merci, Anne-Lise. Donc, La vérité, si je mens, de Thomas Gilou, en 97.
Et la deuxième, là,
c'est beaucoup
la deuxième,
plus difficile, parce que c'est pas une voix caractéristique. Et c'était celle de Juliette Binoche, dans Un beau soleil intérieur de Claire Denis, en 2017.
Oh, alors, voilà. Oui,
elle était pas assez.
Vous voulez réécouter?
Non, non.
Non, d'accord. Donc, on va à l'avant-dernière voix.
La numéro 5.
La 5.
Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois?
Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée.
Alors
François Cluzet.
François Cluzet,
dans Intouchable.
Dans Intouchable de Nakache et Toledano en 2011.
Et le deuxième, par contre,
je sais pas. Et la deuxième, comment elle s'appelle?
Oh, elle est très connue, on la voit partout en ce moment. Elle a un nom grec. Ah non?
Exarchopoulos. Adèle.
C'est pas ça, c'est Angèle. Exarchopoulos.
Exarchopoulos.
Voilà, Angèle Exarchopoulos. Les Anarchistes, un film d'Elie Vachman de 2015. Ouais. Donc, ça nous fait 182 noms. Bon, ça fait zéro, quoi. Vous avez pas... C'est pas très...
Bah si, on a quand même un sur deux, quasiment.
On répond au moins, on voit masculin. Non, mais c'est un scandale.
Tiens, pour finir. Alors, facile et très compliqué.
48 heures de diète. N'ont jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais.
Le film, quand je le regarde, j'ai des souvenirs que les spectateurs n'ont pas. Quand je regarde une scène, je sais qui a maquillé, dans quel hôtel j'étais. J'ai vraiment des souvenirs concrets.
Donc, j'ai dit, la voix masculine est très identifiable.
Mais c'est Jean Marais.
Eh oui, exactement, Mélodie. C'est Jean Marais dans Fantomas, d'André Hunebelle, en 64.
Bravo.
Ouais, alors là,
ça nous scotche.
Ah ouais, moi aussi.
Oui, mais tout le monde ne peut pas être bon, n'est-ce pas, Patrick?
Je vous remercie, Jean-Jacques.
Et alors, la voix de féminine, ça, vous n'allez pas trouver, à mon
Delphine Seyrig.
Non, parce que ce n'est pas une voix de film, c'est une voix
c'est une voix d'interview.
D'une comédienne qui parle du film qu'elle est tournée. Le film, alors, si je vous donne le nom du film, vous allez trouver l'interprète.
Allez-y, on ne sait jamais.
C'est Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau.
Ah ben, c'est Anne Brochet.
Anne Brochet.
C'est Anne Brochet, évidemment. Voilà,
c'est... Un des films les plus détestables que le cinéma ait connu.
Pourquoi vous dites
c'est
ça?
C'est un des meilleurs.
C'est pour embêter Annelise.
Je ne vous crois pas du tout. Voilà, si. C'était la fin de ce quiz merveilleux avec des partenaires extraordinaires.
Eh bien, c'était formidable. Merci Jean-Jacques. Bravo. Et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Allez, et puis alors retour au cours normal de notre émission avec, cette fois-ci, les sorties de demain au cinéma.
Tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça, c'est vrai, ça!
Donc, il y a des films qui sortent demain.
Il y a des films qui sortent demain, ouais.
Et vous allez voir quoi, vous, alors, Patrick?
Alors, moi, demain, je vais aller voir le dernier film d'Almodovar.
D'accord.
Ça, je peux pas faire autrement. Vous la chambre d'à côté avec Tilda Swinton et Julianne Moore et John Turturro.
Bien sûr.
Vous êtes dévoilé.
Forcément. Ouais,
je suis sûr qu'il a volé. Il y a eu un problème là.
Alors ceci, Madame Annelise, est prévu depuis hier matin.
Moi, avant-hier, dimanche.
Manche. Donc le dernier Almodovar, je pense que c'est absolument incontournable. À ce propos. Allez voir En fanfare, le film de Manuel Courcol, dont on a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur la fanfare entre un frère qui retrouve son frère, et c'est magnifique. Donc voilà, moi j'ai parlé de La chambre d'à côté d'Anne.
Oui, mais d'ailleurs un petit résumé de ce que c'est.
Alors si vous voulez, alors c'est vite fait. Hein,
mais
parce
vite
que
fait,
Ingrid et Martha, qui sont amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Et lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leur chemin se sépare. Mais des années plus tard, leur route se croisent dans des circonstances troublantes.
Eh oui. Yes, ça a l'air d'être un très beau film à la Almodovar.
À la Almodovar.
Donc vous allez pleurer, je pense. Voilà. On va pleurer, ça va être...
On
mais
va
ça va être
aussi.
Coloré.
On va rire
puis,
aussi,
oui.
Parce que c'est souvent une passion.
En tout cas, ça a l'air vraiment
bon,
chouette.
Vous y allez ensemble, alors, c'est ça ?
Je ne sais pas. Moi, j'irai... Je pense que j'irai à l'Utopia, moi, la séquence de 15 heures.
Oui, on verra.
Bon, alors, moi, j'en ai un petit aussi, mais ce n'est pas un film
nouveau. Ah, c'est un documentaire sur...
Non, c'est une reprise d'un film qui était sorti en 71.
Oh, de Pietri.
Et qui avait eu la Palme d'Or du Festival de Cannes à ce moment-là, d'ailleurs. C'est un film, évidemment, d'Elio Petri.
Voilà.
La classe ouvrière va au paradis.
Tout à fait.
Voilà, c'est un ouvrier qui est très branché sur son travail, qui ne voit rien d'autre. Et puis, un jour, il est blessé gravement à un œil. Et il va s'apercevoir qu'il peut compter sur la solidarité de tous les ouvriers autour de lui.
Oui, alors que ce n'est pas sa tasse de thé. Quoi. La solidarité, ce n'est pas son kiff.
Donc, ils vont se mettre en grève, revendiquer pour les mauvaises conditions de travail. Et du coup, cet ouvrier devient un syndicaliste forcené. Mmh. Et évidemment, il y a ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il se lie avec des gauchistes, et il est licencié, et sa femme le quitte, et il déprime. Mais nous sommes dans les années 70.
Voilà.
Donc, eh ben, une nouvelle grève éclate, en guise de solidarité, et il est rembauché. Voilà, c'est un film qui fait partie d'une série de portraits qu'avait fait Elio Petri. Il y avait eu aussi Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, sur la police.
Et Gian Maria Volonté.
Et c'est Gian Maria Volonté qui joue dans les deux films, d'ailleurs. C'est une reprise, alors ça n'a pas lieu dans tous les cinémas, il faut se renseigner.
Non, parce que peut-être que sur Bordeaux, ça ne passera pas, par exemple.
Film de qualité, voilà.
Ça dépend, ça dépend. Voilà.
Ça dépend.
Là, il y a plusieurs films qui ressortent, d'ailleurs. Il faut se renseigner,
oui,
parce qu'il y a beaucoup de sorties. Bah, l'UGC en fait beaucoup, donc il est possible que à l'UGC, vous puissiez retrouver
sûr,
ce genre de film.
Mais l'Utopia, c'est possible aussi.
Aussi, tout à fait.
Voilà l'Utopia, je voulais dire.
Bon, bah écoutez,
Annelise,
voilà.
Vous avez quelque chose ?
La chambre d'à côté, moi. Autrement, il y a Bernie de Richard Linklater qui ressort avec
Shirley Temple.
Jack Black. C'est marrant, c'est drôle. Et c'est, après, c'est...
C'est pas avec Dupontel ?
Non, c'est pas du tout le même.
Pas le du tout.
C'est une reprise, là aussi.
Voilà.
D'accord, très bien, merci.
Voilà.
Ben voilà.
Et ben voilà, Ciné-Sans, c'est fini.
Ah non,
ah
déjà
bah si, pour aujourd'hui.
Mais non, on vient d'arriver.
Et oui.
Écoute,
il ne vous
ça.
Reste plus qu'à attendre mardi prochain pour nous retrouver en direct.
Et sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
À moins qu'entre-temps, vous n'alliez sur le podcast d'Eau de Radio réécouter cet épisode, ainsi que tous ceux de la saison en cours et ceux des 5 saisons précédentes.
Et à l'heure nous allons clore notre épisode numéro 13, comme d'habitude, par une chanson Perle, Jean-Jacques.
Oui, alors, en 1966, Ed Chalpin, un producteur véreux, mais très véreux, n'est-ce pas, exploite les talents cachés, bien cachés, très bien cachés, de son père Sam Chalpin. Et alors, cela donne un album dans lequel on retrouve une version, disons, allez, on va dire atypique, de Michel, des Beatles. Aïe, aïe, aïe.
Allez,
oui.
À mardi prochain, et en attendant...
Bon vent à tous.
Michel, my pal, these are ways that got together well. My Michel, Michel, my pal, Sunday morning came on, baby, I'm on song. Baby, I'm not song. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only ways I know that you'll understand. Michelle, my love, some Baby, I'm not song. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I am off.
hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I am telling you so you understand. Michelle, my belle, someday more, okay. Baby, I'm not done. I will say